Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous sommes le 11 janvier 2020. Des jeunes gens sont à la fenêtre d'un appartement lyonnais au 4e étage. Ils regardent la manifestation qui défile en bas contre la réforme des retraites. L'un d'eux fume une cigarette et l'autre filme le cortège. La vidéo de ce qui s'ensuit sera vue par plus de 2 millions de personnes. Car très vite, l'image part dans tous les sens sous le choc d'un projectile qui a atteint la fenêtre et explose. En zoomant sur l'image plus tard, la jeune filmeuse distinguera un tir de grenade lacrymogène parti d'un membre des forces de l'ordre derrière un camion de gendarmerie. On appelle ce genre de tir « tir en cloche » car il ne vise pas directement les manifestants, ce qui serait un tir tendu et est en principe interdit. Ici, le projectile part plutôt en l'air, comme à la pétanque, disons, quand on fait une boucle ou plutôt une cloche. Sauf que c'est vraiment, dans ce cas, une grande cloche qui atterrit au 4e étage où ces 5 étudiants sont en train de réviser leur partiel. C'est ce que détaille le Parisien qui a reconstitué la scène. Le truc a rebondi sur le bras de mon ami à la fenêtre et a fini sa course dans l'appartement, raconte une jeune fille qui a aussi reçu des éclats lors de l'explosion de l'engin, précise le Parisien. Il a eu de la chance, il avait un gros pull qui a amorti le choc. De son côté, la police nationale du Rhône a commenté sur Twitter « Si un tir a pu toucher accidentellement le balcon d'un immeuble, il n'y a eu aucune velléité de l'atteindre ». Dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui et qui se passe à Marseille en 2018, en décembre, il n'y a hélas aucune image, mais bien une fenêtre, une grenade et une victime de tir. Les caméras de vidéosurveillance, comme par hasard sous cet angle, ne fonctionnent pas et personne n'est là pour filmer ce qui est arrivé exactement à cette dame de la petite bourgeoisie algéroise, passionnée de lecture, d'histoire et d'actualité, une voyageuse, une femme d'affaires qui a fait un stage à New York chez L'Oréal avant d'ouvrir son salon de coiffure dans le centre-ville d'Alger où elle a passé une partie de sa vie. Elle est ensuite venue vivre rue des Feuillants, dans le quartier de Noailles, à Marseille, au-dessus de la célèbre pizzeria Charlie, à quelques pas de la rue d'Aubagne, où se sont effondrés les immeubles en novembre 2018. C'est entre cette rue et l'hôpital que se passent les dernières 24 heures de sa vie, les plus tragiques, qu'on vous raconte tout de suite au micro d'Olivier Minot. Zineb Redouane, une femme à sa fenêtre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis Milfat Redouane, la fille de Zineb Redouane. J'habite en Algérie, à Alger. On était très proches, on vivait ensemble en Algérie, dans le même appartement, moi et elle, et mon neveu. Et elle faisait des allers-retours pour ses soins. Elle a pris l'habitude de se soigner ici avec ses médecins et tout. Voilà. Il y avait son ami, Imal, qui s'occuper d'elle quand elle est là.
Alors moi c'est Imel Souanes, une amie très proche de Zineb Redouane. Elle restait presque la moitié de l'année à Marseille et l'autre moitié sur Alger avec ses enfants.
Ma mère, elle était chez elle, elle était touchée le 1er décembre 2018 dans son appartement au 4e étage par un tir de lacrymogène.
Ce jour-là, il y a la manif pour le logement digne. Après l'effondrement de l'immeuble de la rue d'Aubagne. Et on a pris le café, je suis restée avec elle jusqu'à 3 heures. Et elle était rentrée vers 16 heures à la maison. À 16 heures, depuis 16 heures, elle était avec une fête au téléphone.
Elle est rentrée à 16h15 exactement, elle était chez elle. Elle a remarqué qu'il y avait des manifestations. Comme elle a dit, Imen, c'était pour une marche pour un logement digne, plus le troisième acte des Gilets jaunes ce jour-là. Elle m'a dit, je ne vais pas mettre ma vie en danger, je ne vais pas sortir. Il y a trop de gaz, déjà, elle ne peut pas respirer le gaz. Elle a vu toute la foule, elle a entendu les coups. Moi, j'étais à travers le téléphone, j'entendais avec elle, de chez elle. Elle était en train de préparer son dîner. Elle m'a dit, j'ai préparé une soupe de légumes. J'ai acheté 2 gâteaux de baklava. Et moi, je rigolais avec elle, elle était diabétique. Comment tu vas prendre? Non, 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 elle n'est pas trop sucrée. Elle était en train de rigoler comme ça. Jusqu'à 18h55, elle m'a dit, attends, je vais fermer la fenêtre parce que là, Le gaz a monté jusqu'à moi. Attends, je vais fermer la fenêtre. C'était exactement 18h56. Et elle a commencé à crier. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as? Elle ne m'a pas répondu sur le coup. Elle était en train de crier. Après, elle a repris le téléphone. Elle m'a dit, il y a un policier qui m'a tiré. Il m'a visé. J'imaginais qu'elle a inhalé le gaz. C'était une bombe lacrymogène comme celle que je voyais en Algérie quand ils dispersent les manifestants. Déjà, j'étais en train de lui dire, mets du vinaigre. Elle a éteint les étincelles avec ses pieds. Elle a eu des brûlures au niveau des chaussures. Le sol, il était tout brûlé. Mais elle était en train de parler, de s'imposer, de là. Alors elle ne m'a pas donné l'impression que c'était grave. J'ai coupé avec elle, j'ai appelé Iman.
Quand je l'ai rappelée, elle m'a répondu. Et elle criait, elle me disait, je saigne, je saigne. Sur le coup, je ne comprenais pas parce qu'elle a l'habitude de saigner du nez. Elle me dit, non, je saigne beaucoup, je saigne beaucoup. Appelle les pompiers. J'appelle les pompiers, je leur dis que voilà, il y a une dame âgée qui a été touchée, 4e étage, il faut intervenir au plus vite. Ils me disent, oui, mais en bas, c'est tout, n'importe quoi, on ne peut pas. Je dis, c'est juste en face de vous, vous n'allez qu'aller à pied.
Après, il y a les pompiers qui sont venus, ils sont montés chez elle. Bon, elle est sortie, elle, de chez elle. Elle a fermé son appartement et elle les attendait en bas pour faciliter ça. Tu vois, elle a eu ce coup, mais elle était consciente. Elle était en train de se comporter avec sagesse, on va dire. Voilà, avec sagesse. Moi, j'étais par téléphone avec elle aussi, là. Oui, oui, j'étais avec elle jusqu'au moment où elle a été dans l'ambulance. Et il y a le policier qui lui dit « Donne-nous la clé de ta maison, on va pour sécuriser les lieux. » Elle lui a dit « C'est bon, j'ai coupé l'électricité, j'ai tout éteigné, j'ai sécurisé mon appartement, il n'y a pas de... » Pourquoi ? Elle ne voulait pas lui donner. Et là, il a forcé « Si tu ne donnes pas tes clés, on casse la porte. » Et elle est partie avec les pompiers en laissant sa clé au policier qui est rentré. Il a laissé la clé chez sa voisine.
Je l'appelle encore au téléphone. Elle me dit « Rejoins-moi à l'hôpital. » Il me passe un agent des pompiers et ils me disent on va la transférer à la Timone, hôpital de Marseille. J'ai pu la voir parce qu'il y avait les médecins qui étaient avec elle et j'ai pu la voir vers 23h passées. À ce moment-là, quand je suis rentrée, je ne m'attendais pas de la voir dans cet état. Elle avait des points de suture, je me suis mise à pleurer, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Et de là, elle a commencé à me parler. Milfait était en train de m'appeler toute la soirée, son frère, toute la famille. Et elle arrivait à peine à parler, mais elle avait toute la tête et tout ce qu'il faut. Et je ne voulais pas envoyer la photo, elle m'a dit « Envoie à Milfait ».
Quand j'ai vu la photo, là, je me suis mis à genoux. Je n'ai jamais imaginé. On dirait qu'elle était en guerre, dans une guerre. C'est pas elle était chez elle. Je n'ai jamais imaginé la voir comme ça. Côté droit, elle avait les lèvres... toute bleue, toute gonflée. Elle avait un grand hématome sur la poitrine. Elle était défigurée, carrément.
En écoutant les récits de Milfait et d'Imen que j'ai rencontrés à Marseille, je me suis demandé comment une grenade lacrymogène a pu arriver à la fenêtre de Zineb Redouane, au 4e étage de la petite rue des Feuillons, qui donne sur la Canebière dans le quartier de Noailles. Alors je suis allé voir plusieurs personnes qui étaient à la manifestation du 1er décembre.
Les slogans c'était Godin assassin,
peut-être avait-elle vu quelque
Macron
chose.
Godin ça sent le sapin, parce qu'il y avait les sapins de Noël qui étaient brûlés juste à côté.
Lui, c'est Pierre-Hinard Dupuis, journaliste indépendant.
Le gros de la colère c'était de dire c'est pas possible.
Il habite sur la Canebière, à une centaine de mètres de l'endroit d'où a été tirée la grenade. Il a pu observer la foule depuis son balcon.
Il faut voir qu'à Marseille, le gros des manifestations de ce début d'hiver, c'était vraiment suite aux effondrements de la rue d'Aubagne. Et ce 1er décembre, il y avait une nouvelle fois autour de 10 000 personnes qui étaient dans la rue. Il y avait quelques gilets jaunes, il y avait aussi un cortège de la CGT. Tous ces gens se sont retrouvés en fait à converger jusque vers la mairie. Il y a eu des gaz lacrymogènes comme ça qui ont été envoyés de façon très... Enfin, sans prévenir en fait, sans aucune sommation d'ailleurs aussi. Juste après quelques jets de pétards en fait en direction des forces de l'ordre qui se trouvaient en faction devant la mairie. Et à partir de là, c'est parti en émeute sur la Canebière avec énormément de grenades de désencerclement, énormément de grenades lacrymogènes. Il y a vraiment un nuage épais hein, de lacrymogènes. Les gens ont reflué jusque sur la Canebière en montant des barricades, en brûlant des sapins de Noël qui avaient déjà été installés, avec certaines personnes donc, qui se livraient à du pillage dans les magasins. On le voit là sur la rue, il y a encore la trace de cette barricade qui avait été enflammée le 1er décembre sur le macadam hein, qui est abîmé.
Les traces qu'on voit, c'est les traces de la barricade d'il y a un an.
Ouais. Le macadam a fondu parce qu'il y avait une barricade enflammée juste là.
Ce jour-là, depuis son balcon, Pierre, qui fait également de la radio, a enregistré l'ambiance des émeutes et des tirs de grenades.
Alors moi, ce que je vois depuis mon balcon, donc des policiers qui se tiennent à distance, mais qui font des tirs de lacrymogène donc en cloche, qui montent au-dessus des platanes, qui montent à travers le feuillage des platanes, parce que le feuillage n'était pas encore complètement tombé, comme aujourd'hui d'ailleurs, on peut le voir. Hein, et certaines grenades lacrymogènes qui ripostent sur les façades des immeubles. C'est extrêmement dangereux, tirer sur les façades, enfin il y avait vraiment des grenades lacrymogènes qui rebondissaient sur les façades. Des rebonds sur le mur, moi j'en ai vu des dizaines ce soir-là, quoi. C'était vraiment effrayant. Et à un point d'ailleurs, où je me suis dit que ça pouvait même être dangereux pour moi, étant là sur mon balcon, et dangereux pour moi et dangereux pour les voisins. Et finalement, on a vu la preuve que, bah oui, que ça avait été dangereux.
Les infirmières m'ont dit qu'on a fait une radio et on attend le chirurgien pour décider si elle va se faire opérer ou pas. J'ai attendu jusqu'à tard dans la nuit et le chirurgien n'était toujours pas là. À un certain moment, j'étais obligée de rentrer parce qu'il y avait mes filles avec moi qui attendaient dans l'accueil. Les infirmières m'ont dit, dès qu'on a les résultats, on vous appelle. À 4 heures du matin, elle a été transférée à la conception. Mais avant de partir, elle m'a dit, tu récupères mes clés, tu m'amènes mes affaires. Comme d'habitude, quand elle rentre à l'hôpital, lui acheter un pyjama, un nouveau pyjama et tout. Le matin, je suis passée avec mon fils. J'ai récupéré les clés, je suis rentrée dans l'appartement. On n'a pas pu rester trop longtemps parce qu'il y avait trop d'odeurs de gaz. Je suis allée au CIA, j'ai lui acheté un pyjama. Je pars à la conception, j'arrive, elle est dans la chambre. Comme d'habitude, si on ne la regarde pas, on ne s'imagine pas qu'elle a ce coup. On parle et tout, elle me répète comme la veille, dès que je sors, tu vas m'aider pour savoir qui c'est qui m'a tiré et pourquoi il m'a visé. Parce qu'il m'a visé, elle insistait mais tellement sur ce mot. Pourquoi il m'a visé? Parce qu'il m'a regardé et après il m'a tiré. Tu vas m'aider pour savoir pourquoi. J'ai dit, t'inquiète pas, d'abord tu te fais opérer, on verra après. Je suis sortie pour parler au chirurgien, il m'a expliqué que l'opération était nécessaire, sinon elle va s'étouffer. Elle avait le maxillaire qui était en train de descendre. Et du coup, il fallait faire cette opération. Je suis re-rentrée, j'ai appelé Milfette, je lui ai passé tous ses enfants. Comme je fais à chaque fois quand elle se fait opérer, j'appelle ses enfants. Et je lui ai fait une petite vidéo avant qu'elle rentre. Elle parlait, elle racontait son histoire à l'infirmier qui est venu la prendre au bloc. J'ai demandé combien ça durait, on m'a dit une heure et demie avec le réveil. Et on est descendu au cafétéria en bas. Au bout d'une demi-heure, l'infirmière, elle est descendue et elle est venue vers moi. Elle me dit, elle est vivante, comme ça. Mais elle nous a fait 3 arrêts cardiaques. Mais elle est vivante. Vous allez venir avec moi pour la voir un peu. C'est passé comme ça. Je suis montée en réanimation. Je suis restée toute la soirée, sans cœur, parce qu'il battait tellement... Enfin, lent, il était tellement... Enfin, je veux dire, il ne battait pas bien. Je l'ai vu partir, doucement, 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 jusqu'à où le pouls était devenu zéro. Ils ont débranché, et voilà, il était parti. Milfette, ses frères, ses sœurs, ils étaient toute la soirée avec moi, et je leur disais, enfin, au fur et à mesure, tout ce qui se passait. Ils étaient avec moi.
Bon, pendant un moment avant qu'elle parte, elle m'a mis le portable sur le téléphone sur son oreille et j'ai pu lui parler.
Bon, je lui ai supplié de ne pas partir, j'ai essayé de la... Mais elle est partie. Mais je ne pouvais pas croire sur le coup. Personnellement, j'avais très peur et j'avais peur de ne pas la voir. Je ne l'ai pas vue en train de mourir. En plus, j'avais pas le visa, j'avais rien pour venir. On n'a pas pu la rapatrier. Pendant 23 jours, son corps est resté bloqué dans la morgue. Pendant 23 jours, moi, j'étais en train de me dire peut-être elle n'est pas morte. Quand j'ai récupéré le corps, on dirait qu'elle n'était pas avec des humains. J'ai failli m'évanouir. On m'a sorti de la chambre. Et d'ailleurs, la personne qui a l'habitude de faire ça, les pompes funèbres, ne pouvait pas rester aussi. L'odeur...
Son corps dans la morgue, il n'a pas été respecté.
Voilà.
Ils ont fait une autopsie barbare. Elle a été tuée. En plus de ça... Elle a été maltraitée, son corps a été maltraité, ce qui est inacceptable. C'est pas seulement dans notre religion, mais dans toutes les religions du monde. Et ces gens-là, ils ont fait aussi du mal, une deuxième fois à ma mère, à son corps. Et la troisième fois, c'est les déclarations des politiciens, des responsables, voilà.
Parmi les déclarations qui ont choqué la fille de Zineb Redouane, il y a celle du procureur de la République de Marseille, qui a affirmé à la presse qu'il n'y avait aucun lien entre le tir de grenade et la mort de la vieille dame.
Oui, bonjour, on y arrive. Oui,
donc, Olivier... Quand j'appelle Yacine Bouzrou, l'avocat de la famille, il m'apprend que le procureur en question a été muté à Metz le mois dernier, ce qui est selon lui une sanction disciplinaire. L'affaire a également été dépaysée de Aix à Lyon quand on a découvert qu'un magistrat en charge de l'enquête était présent aux côtés des CRS au moment des faits.
Du coup, aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a tiré.
L'instruction est donc actuellement en cours à Lyon pour répondre aux deux plaintes de la famille. La première pour violence volontaire ayant entraîné la mort.
La prochaine étape, selon moi, c'est la mise en examen des CRS qui ont utilisé les lance-grenades et qui ont tiré sur une façade d'immeuble.
Et la seconde, pour entrave à la manifestation de la vérité, puisqu'étonnamment, la caméra de vidéosurveillance juste au-dessus du carrefour où ont eu lieu les tirs a été déclarée hors service.
Chose à laquelle nous ne croyons absolument pas pour différentes raisons émanant de la procédure.
De plus, le chef des CRS n'a pas voulu livrer les armes incriminées à la police des polices.
Donc là, c'est l'IGPN qui est visé par la plainte.
Vous êtes en contact avec l'inspection générale de la police nationale.
De mon côté, toutes mes demandes d'éclaircissement auprès de l'IGPN sont restées sans réponse.
Oui. Malheureusement, je peux vous voir personne. On a des consignes, on ne communique pas.
Le mercredi, deux jours après, j'étais entendue par l'IGPN. Je répondais aux questions qu'il me posait. Et il m'a dit, bon, on va être quand même un peu logique. Regardez quel âge elle a. L'état de sa santé. Si vous avez reçu la même chose, la même grenade, vous serez aujourd'hui en vie. Ça, c'est le commandant de l'IGPN. Ça m'a choqué.
Ma mère, elle était chez elle, elle était en bonne santé, elle avait quelques maladies, gérables, mais elle était là, elle vivait tout seule, elle voyageait tout seule.
Elle n'est pas morte de ses maladies.
Elle n'est pas morte de ses maladies du tout. Et du coup, on a pu la rapatrier le 25 décembre. Elle a été enterrée comme elle le souhaitait avec mon frère, dans le caveau familial, dans le même temple. Toujours, c'était sa volonté, c'est le jour où je meurs, mettez-moi avec mon fils. Avant le 1er décembre, j'étais en Algérie, je vivais en Algérie, j'avais mon petit travail, je vivais avec ma mère. J'avais un atelier de confection, textile. Et après sa mort, ma vie a changé et tout s'est arrêté, j'ai tout arrêté. Voilà, j'ai tout arrêté. J'arrive pas à reprendre ma vie comme elle était avant le 1er décembre. Je peux pas parler du deuil aujourd'hui. Je peux pas parler du deuil. J'ai toujours un truc qui brûle au fond de moi.
Je pourrais pas dépasser, reprendre et faire le deuil. Comme si rien n'était. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut que la vérité soit claire. Il faut que cette affaire soit claire. Il faut qu'on sache pourquoi ce policier a tiré sur ma mère. Quelles que soient les circonstances, on veut savoir. J'ai besoin de savoir qui a tiré.
Aujourd'hui, plus d'un an après la mort de Zineb Redouane, je me balade dans les rues du quartier de Noailles. Dans ce quartier populaire encore marqué par les effondrements d'immeubles de la rue d'Aubagne l'année dernière, le nom de Zineb est tagué sur tous les murs.
Bilal.
Bonjour, salut Bilal.
Ça va mieux la gamelle ?
Bilal, un des jeunes qui traîne ici, doit être un des seuls riverains à ne pas savoir qui était la vieille dame.
Je ne connais pas. Je t'ai pas demandé c'était qui, la dame qu'on a écrit son nom partout ?
T'as écrit, mais
je t'explique en arabe ou en français ?
Arabia.
Alors, à la Redoubane, qui m'chine, à la Redoubane.
C'est sur cette place que je comprends que le nom de Zineb Redouane est devenu le symbole de plusieurs combats actuels. Il incarne la lutte contre les violences policières. Pour les Gilets jaunes, Zineb est aussi considéré comme une de leurs martyrs. Et à Noailles, certains la comptent comme la 9e victime des effondrements de la rue d'Aubagne.
Ça pourrait être ma mère ou ma tante ou ma sœur.
En effet, elle habitait à deux rues de là et sa mort est survenue suite à une manifestation contre l'habitat indigne soutenue par les Gilets jaunes.
Et alors, ce qu'on voulait savoir ce jour-là, c'est vrai que c'était un carnage parce qu'il y avait beaucoup de manifs. Mais est-ce qu'il n'y a pas de caméra, qu'ils ont filmé la scène ? Est-ce
qu'il y a... qu'il y a trop de fumée, que c'est flou ?
Moi, je ne trouve pas que c'est normal que quand... nous, de Monsieur Tout-le-Monde, quand on se fait assassiner, il n'y a pas de loi pour nous. Quand c'est un policier, alors voilà, voilà. C'est... j'aime pas tout ça, moi. On est tous des êtres humains avant tout. Que ce soit policier, que ce soit avocat, ingénieur, on est tous des êtres avant tout. Hein. Moi, j'espère que justice, elle sera rendue, c'est tout ce que je souhaite. Hein. Après, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Les gilets jaunes, les gilets rouges, la CGT, les étudiants. Il y a la Redoubane, ils ont fermé la plaine qu'on a besoin. La Redoubane, c'est un massacre maintenant. Moi, j'ai honte d'être à Marseille maintenant. Il n'y a que des rats qui se promènent tous les soirs. Je paye 900 euros de loyer pour voir les rats se promener, ils se bagarrent pour le pain tous les soirs. Voilà, mais c'est dommage qu'on a perdu 8 personnes comme ça. Ce soir, je fais couscous avec la grenade, raisin, le miel. Bah, tu viens manger si tu veux.
Bah, écoute, si je suis dispo carrément, je
vais. Tu as mon téléphone toujours ?
Bien sûr, j'ai la
carte. Et bah, tu viens manger, y a pas de souci.
Merci, salut.
Mais moi, j'aimerais juste savoir qui c'est le policier qui a tué Zineb. Est-ce qu'il a tiré exprès ? Moi, j'avais un pressentiment quand je suis arrivée. J'ai dit, moi je m'en vais, je sens que ça commence à me gazer, moi j'ai mal au cieux. Mais un soir, je sais pas où je me suis retrouvée d'autre.
Les gens de la rue d'Aubagne, c'est leurs voisines aussi. Ils se sont touchés en quelque part de sa mort. Et ils parlent tout le temps d'elle, ils organisent des hommages qui me touchent vraiment. Il y a pas mal de personnes, il y a plus de 6000 sur ma page qui ont rentré en contact avec moi. La majorité, c'est des Français qui posent des questions. Il y a des gilets jaunes qui m'ont dit on se sent un peu responsable. Et ça me donne beaucoup de force de trouver des gens autour de moi qui me soutiennent, qui n'oublient pas et qui crient le nom de ma mère et qui le font avec conviction et avec sincérité. J'aimerais bien que les gens repensent à ces armes, voilà, à l'utilisation de ces armes. Ils prennent au sérieux ce qui s'est passé avec ma mère. Je ne veux pas que ça repasse encore une fois avec quelqu'un d'autre. On doit se servir des leçons. Les histoires se diffèrent. L'histoire de Steve, ce n'est pas celle de ma mère. Le frère de Assada Traoré, ce n'est pas la même de ma mère. C'est des histoires différentes, mais la conclusion est la même. Il y a une vie. Il y a une vie qui a été ôtée. Mais ce que je trouve qui est plus grave dans l'histoire de ma mère, c'est qu'elle était chez elle. Même pour dire c'est un accident, c'est difficile de le dire. Elle était chez elle. Elle était à l'abri. Elle était censée être en sécurité. Dans un pays de sécurité, on va dire. Il y a une déclaration du président qui a dit « c'est un miracle, jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de mort ». Ben, aujourd'hui je lui pose la question, monsieur le président, où est le miracle? Où est ma mère? J'aimerais bien voir qu'il y ait un miracle et ma mère soit parmi nous.
C'était Zineb Redouane, une femme à sa fenêtre, un reportage d'Olivier Minot réalisé par Clémence Grosse. Merci à Milfette Redouane, Imen Swam, Pierre-Inard Dupuis au collectif Presse Papier, le 35, à Annika Eriksen, à Laura Spica, Dominique Carpentier, à Bilal Sali et au collectif du 5 novembre, ainsi qu'à Aurélie Marseille sur les violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes, notamment des données précises, informées et rigoureuses. Il faut suivre le travail de David Dufresne sur Twitter et chez Grasset.